Cham HGSP.
Se forger un avis critique.
Avoir une réflexion.
Grandir et évoluer avec ses connaissances.
Connaître le monde.
Rester curieux.
L'art du débat.
Avec Cham HGSP. Axe 2. Liberté au contrôle de l'information. Un débat politique fondamental. Jalon 1. L'information dépendante de l'opinion. L'affaire Dreyfus et la presse. Présenté par Cassandra, Aline et Nina.
Le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison.
À la fin du 19e siècle, la France est secouée par une crise majeure, l'affaire Dreyfus. Ce scandale judiciaire, d'abord militaire, devient rapidement une affaire politique et médiatique nationale. Loin de se contenter d'informer, la presse prend alors parti, s'engage et divise l'opinion publique. L'affaire Dreyfus relève ainsi comment les journaux ne sont pas de simples relais neutres de l'information, mais bien des acteurs idéologiques à part entière. En quoi l'affaire Dreyfus montre-t-elle que la presse peut influencer l'opinion publique et prendre part à un débat politique ? Nous verrons donc dans un premier temps comment cette affaire s'inscrit dans un contexte politique et médiatique particulier. Ensuite, nous analyserons comment la presse de l'époque reflète des engagements politiques opposés. Enfin, nous étudierons l'impact concret de cette presse sur l'opinion des lecteurs. Donc pour ma première partie, nous verrons une affaire qui s'inscrit dans un contexte politique et médiatique particulier. L'affaire Dreyfus est une affaire d'État, comme nous l'avons vu dans l'introduction, de la fin du 19e siècle en France. Pour comprendre cette affaire, nous allons déjà nous intéresser sur l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est-à-dire la discrimination envers les Juifs, remonte à l'Antiquité. Dans l'Empire romain, les Juifs étaient déjà perçus comme différents, en raison de leur religion monothéiste. Au Moyen-Âge, en Europe, les Juifs furent souvent accusés de crimes infondés et persécutés par l'Église. Ils étaient aussi exclus de nombreux métiers, ce qui a parfois poussé à exercer des professions liées à l'argent, ce qui a nourri des stéréotypes négatifs. À partir du XIXe siècle, l'antisémitisme prend une nouvelle forme. Il devient plus radical et nationaliste qu'uniquement religieux. Les Juifs sont accusés de ne pas s'intégrer à la nation, notamment en France ou en Allemagne. Ce contexte, ici, directement, va nourrir l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, 1894-1906, est un cas emblématique d'antisémitisme en France. Alfred Dreyfus, un capitaine juif de l'armée française, est accusé à tort d'avoir livré des documents secrets à l'Allemagne. Son procès repose sur les preuves falsifiées, mais il est tout de même condamné à la déportation à vie. Le fait qu'il soit juif joue un rôle central dans sa condamnation, à une époque où les idées antisémites sont très présentes dans la société et l'armée française. L'affaire relève des divisions profondes en France entre les Dreyfusards, défenseurs des droits et de la vérité, et les anti-Dreyfusards, qui sont souvent nationalistes, conservateurs et antisémites. Elle marque un tournant majeur dans la lutte contre l'injustice et l'antisémitisme. Donc le contexte politique à cette époque est instable et divisé. À l'époque, la Troisième République est encore jeune. Elle est instaurée en 1870. Elle est fragile et deux grands camps s'opposent. Les républicains, favorables à une France laïque, démocratique et attachée aux droits de l'homme, et les conservateurs, qui sont nationalistes, souvent catholiques, monarchistes et militaires, hostiles à la République et parfois antisémites. L'armée, très influente, est respectée depuis la défaite contre l'Allemagne en 1870. Elle est considérée comme un pilier de l'unité nationale et elle remet en cause une décision militaire. Comme dans le cas de Dreyfus, revient alors à remettre en question toute l'autorité de l'État. À cette époque, l'antisémitisme est de plus en plus visible en France. Des journaux comme La Libre Parole diffusent des idées antisémites très violentes. L'identité juive d'Alfred Dreyfus a largement contribué à sa condamnation dans un climat où les juifs étaient perçus comme des étrangers, voire des traîtres. Ensuite, un contexte médiatique nouveau. C'est aussi une des premières grandes affaires médiatiques, modernes. Grâce à la presse de masse, l'affaire est largement relayée et débattue dans toute la société. L'opinion publique est divisée. Anti-Dreyfusard et Dreyfusard, comme nous l'avons vu. Le célèbre article de Zola, J'accuse.
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle.
J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux.
Publie la une du journal L'Aurore en 1898. L'affaire Dreyfus n'est pas seulement une erreur judiciaire, elle révèle une société profondément divisée sur des questions essentielles, la justice, l'armée, la République, la place des Juifs dans un rôle nouveau, dans la formation de l'opinion publique.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permet aux médias de se pencher sur l'affaire. La presse est ainsi marquée par des positions politiques et idéologiques différentes. Quatre grands quotidiens parisiens à diffusion nationale, Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Journal et Le Matin, forment la presse populaire à gros tirage et faible prix de vente. D'un autre côté, la presse destinée aux élites, Le Figaro, Le Temps, Le Gaulois, a un tirage plus confidentiel mais une grande influence. Enfin, en Provence, la presse d'opinion compte près de 200 titres ainsi que des quotidiens d'information comme La Petite Gironde, Le Grand Écho, Du Nord, La Dépêche, Le Petit Marseillais, Le Progrès, etc. De plus, la presse était engagée dans les premières grandes batailles d'opinion autour du général Boulanger et du scandale de Panama. C'est alors que cristallise un national-populisme mettant en cause la démocratie et ses liens supposés avec la finance et les juifs. Mais la violence des attaques des caricaturistes, notamment à l'égard de Zola ou des juifs, prend souvent des aspects orduriers. Par ailleurs, le clivage entre la gauche et la droite s'établit au cours de ce moment Dreyfus. À l'exception notable du Figaro, les journaux conservateurs sont pour l'armée contre Dreyfus, tandis que les journaux républicains sont pour la révision ou Dreyfusard. Le ralliement de Georges Clemenceau ou de Jean Jaurès en sont les symboles.
Enfin, la prise d'opposition d'Émile Zola marque un coup de tonnerre dans l'affaire. L'article publié le 13 janvier 1898 fait la une de l'Aurore. Zola revient longuement sur les officiers supérieurs qui ont manipulé les conseils de guerre pour faire condamner Alfred Dreyfus afin d'innocenter le vrai coupable, Esterhazy. Il termine en accusant nominalement l'ensemble des protagonistes militaires. Il y a là, évidemment, matière à scandale et à procès en diffamation devant la cour d'assises. Ernest Vaughan, le directeur de l'Aurore, pousse les feux et tire exceptionnellement à 300 000 exemplaires. Le jour même, la Chambre des députés décide des poursuites contre Zola par 312 voix contre 122. Le procès de Zola dure du 7 au 23 février 1898. Il finit ainsi par s'exiler. Grâce à cet article, une campagne de presse en faveur de la révision contraint la Cour de cassation à ordonner les révisions au procès. Ainsi, du 7 août au 9 septembre 1899, le deuxième procès d'Alfred Dreyfus a lieu devant le Conseil de guerre de Rennes. Sous la surveillance de certains journalistes, l'affaire regroupe trois différents types de presse, la presse grand public, la presse d'opinion et la presse vecteur d'antisémitisme.
On oublie souvent que la presse n'a pas uniquement but d'informer. La presse, à cette époque, influence l'opinion. Elle la construit, elle la divise, elle la mobilise. Déjà, il faut imaginer l'ampleur de la couverture médiatique. Entre 1894 et 1906, pendant toute la durée de l'affaire, il y a environ 100 000 articles publiés. C'est gigantesque. Chaque jour, des pages entières dans les journaux, des tribunes, des lettres ouvertes, des caricatures. En bref, l'affaire Dreyfus est partout. La presse ne reste pas neutre. Chaque journal prend position. Et plus encore, ils essayent de rallier le lecteur à la cause. Certains journaux vont même jusqu'à manipuler les faits ou exagérer certaines rumeurs pour créer de l'émotion. Par exemple, La Libre Parole, dirigée par Édouard Drumont, un des journaux les plus virulents contre Alfred Dreyfus, dès le début de l'affaire, il titre « La trahison du juif Dreyfus ». En une seule phrase, on a un message accusateur, un sous-entendu antisémite et un jugement. Le but, choquer, frapper les esprits, créer un climat de haine. Et cela marche. L'opinion publique se tend, se divise. Certains défendent l'armée coûte que coûte. D'autres, au contraire, commencent à douter. Et cette division est en grande partie façonnée par les journaux. Lecteurs suivent, ne lisent qu'un seul journal, celui de leur camp. Ils ne comparent pas les points de vue. Résultat, la presse devient une bulle d'écho où chacun est confronté dans ses idées. Sans recul, sans nuance. Et puis il y a le tournant de 1898, un moment clé dans l'histoire médiatique de la France. Le 13 janvier, dans le journal L'Aurore, Émile Zola publie sa lettre ouverte, J'accuse, un texte fort, frontal, qui accuse les plus hauts responsables militaires et politiques d'avoir condamné un innocent en connaissance de cause. Cette tribune, elle fait l'effet d'une bombe. Tout le monde en parle, les Dreyfusards se sentent enfin entendus, les anti-Dreyfusards crient au scandale. Mais surtout, cette lettre relance l'affaire, remet Dreyfus au cœur du débat et montre que la presse peut-être un levier de justice, mais aussi un outil de combat. Cependant, certains diffusent des informations, propagande, haine alimentée. Certains journaux diffusent des fake news avant l'heure. Ce que nous montre l'affaire Dreyfus, c'est que la presse n'est plus là pour apporter les faits, mais pour les interpréter, les orienter, les dramatiser. Elle peut rétablir la vérité, mais elle peut aussi la déformer, manipulant ainsi l'opinion publique.
Axe 2, liberté ou contrôle de l'information, un débat politique fondamental. Jalon 2, l'information entre le marché et l'État, Histoire de l'agence Havas et de l'AFP, présentée par Maxime, Léo et Noah.
Entre le marché et l'État, en nous intéressant à l'histoire entre deux grandes agences de presse françaises, le Havas et l'AFP. Nous verrons comment l'histoire des agences Havas et AFP illustre-t-elle les tensions entre logique marchande et logique étatique dans la diffusion de l'information. L'agence Havas a été fondée en 1835 par Charles-Louis Havas. À l'origine, il s'agissait d'un bureau de traduction de journaux étrangers. Rapidement, le Havas a compris l'importance de centraliser et diffuser l'information à la presse, créant ainsi la première agence de presse du monde. Grâce à l'utilisation du télégraphe, un réseau de correspondants étrangers et la distribution d'abonnements à des journaux français pour obtenir leur information, le Havas est devenu une agence internationale. De plus, fondée pendant la révolution industrielle, le Havas bénéficie de nombreux progrès technologiques. Le Havas est un modèle à l'étranger, comme par exemple avec Reuters en 1851. Le Havas est présent sur le plan international en Afrique et en Amérique latine. Cependant, le Havas décline pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation et le contrôle de Vichy et subit donc une perte de crédibilité. Sa proximité avec les pouvoirs publics et les milieux économiques a suscité des critiques quant à son indépendance et la neutralité de l'information diffusée.
Après plusieurs années de déclin durant la Seconde Guerre mondiale, sous le contrôle du régime de Vichy, la Havas a considérablement perdu en crédibilité. Le 20 août 1944, l'insurrection débute à Paris et les journalistes au sein de la résistance prennent les armes pour investir les locaux. À la suite de cet épisode, la Havas devient l'AFP, nouvelle agence de presse internationale française. La nouvelle politique de l'agence est alors de fournir une information fiable, objective et indépendante. C'est le 10 janvier 1957 que l'AFP est définie légalement comme une société autonome, ne pouvant être ni privée ni gouvernementale, et ne pouvant subir aucune pression économique ou politique. Aujourd'hui, l'AFP dispose d'une couverture considérable. L'agence est présente dans plus de 150 pays à travers le monde, où elle compte quelques 200 bureaux, 2400 employés et 1700 journalistes, couvrant l'information dans 6 langues différentes, français, anglais, espagnol, portugais, allemand et arabe.
L'AFP joue un rôle important dans nos sociétés. Elle vérifie chaque information qu'elle diffuse ensuite rapidement à ses abonnés. Elle fournit des dépêches aux médias en leur fournissant de nombreux contenus comme des photos, vidéos ou en bien des interviews. Elle est donc utile pour tous, médias tels que les radios, les sites internet et la télé. L'agence France Presse est gage de fiabilité. Elle est la première étape de l'information. L'AFP est d'autant plus unique par son mode de fonctionnement, avec son indépendance économique sans publicité et sa neutralité politique. Elle est d'autant plus importante dans des pays où la liberté de la presse est endiguée. Aujourd'hui, elle est confrontée à de nombreux enjeux dus à sa banque d'images de journaux extrêmement importante. Elle s'est modernisée avec une présence accrue sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, X ou encore TikTok. Grâce à cela, elle a pratiqué des collaborations avec Facebook pour signaler des fake news et récupérer certaines deepfakes.
En conclusion, l'histoire de Havas et de l'AFP illustre les tensions entre le marché et l'État dans le domaine de l'information. L'AFP incarnant une tentative d'indépendance et de service au public. Alors aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux et des géants du numérique, une nouvelle question se pose. Comment garantir une information fiable et indépendante lorsque les entités économiques portent leur influence jusqu'à la presse?
Axe 2, liberté ou contrôle de l'information, un débat politique fondamental. Jalon 3, information et propagande en temps de guerre, les médias et la guerre du Vietnam, présenté par Elliot, Louis et Raphaël.
Nous sommes ensuite intéressés à l'influence des médias dans la guerre du Vietnam. En 1954, les accords de Genève partagent le Vietnam en deux États. D'un côté, le Vietnam du Nord, qui prône la dictature communiste, et de l'autre, le Vietnam du Sud, plutôt orienté sur le modèle occidental. Suite au développement d'un groupe communiste au Sud-Vietnam, les États-Unis déploient des soldats à partir de 1962. Leur but est simple. En pleine guerre froide, ils veulent stopper le développement du communisme. La première guerre entièrement télévisée débute officiellement en 1964. Les forces américaines se déploient petit à petit pour atteindre plus de 536 000 soldats mobilisés en 1968. Cette guerre, surnommée « guerre des salles à manger », voit son soutien populaire réduire au fil des années. Ceci est dû au fait que les Américains suivent le déroulement de la guerre à la télévision directement depuis leur salle à manger. Nous verrons quel rôle jouent les médias dans l'opinion publique de la guerre du Vietnam.
Entre 1964 et 1968, les médias ont joué un rôle central dans la guerre du Vietnam, devenant à la fois un outil de propagande et d'information. Dès novembre 1961, lors d'une conférence de presse, le président Kennedy évoque la présence des rebelles communistes en Asie du Sud-Est. Bien que les États-Unis ne soient pas officiellement en guerre, cet événement marque le début d'une médiatisation stratégique. Dans cette logique, les autorités ont refusé d'imposer une censure stricte, de peur qu'elle n'attire la critique des médias et ne contredise leur position officielle. À la place, elles mettent en place un système d'information encadré. Les journalistes bénéficient de nombreux moyens logistiques et reçoivent quotidiennement des informations officielles par l'intermédiaire d'un ministère de l'information locale. Jusqu'au milieu des années 60, la majorité des reportages diffusés se concentrent sur la vie des soldats américains, les GI, et s'alignent sur la vision anticommuniste dominante. Le magazine Life, par exemple, publie alors des unes glorifiant les soldats. Mais avec l'enlisement du conflit, le ton change. La presse diffuse des images de plus en plus alarmantes. Si les médias ne provoquent pas réellement de contestation, ils contribuent notamment à la formation progressive d'une opinion publique de plus en plus critique en Amérique. Du côté vietnamien, la guerre médiatique prend la forme d'une propagande active. Des émissions de radio incitent les soldats américains à déserter, cherchant à miner le moral de l'adversaire. Ainsi, les médias, qu'ils soient américains ou vietnamiens, deviennent des armes d'influence au cœur du conflit.
Le 30 janvier 1968, l'offensive du Tet surprend les États-Unis. Une centaine de villes sont assaillies simultanément par des combattants nord-vietnamiens. L'offensive échoue, mais est filmée en direct par les caméras des journalistes occidentaux. Dans cette guerre, première de l'histoire filmée en continu, les journalistes du monde entier montrent la violence des combats. Après l'offensive, ils mettent en lumière les dégâts matériels, mais aussi les dégâts physiques et psychologiques subis par les soldats des deux camps, ainsi que les civils, à travers des vidéos et photographies de blessés, de morts, de mutilations, d'exactions. Le 2 février 1968, un cliché d'Eddie Adams paraît à la une du New York Times. Il montre le chef de la police sud-vietnamienne, allié des États-Unis, pointer son arme vers la tempe d'un prisonnier nord-vietnamien. La photo est prise au moment même où il l'abat d'une balle dans la tempe. Grâce aux nombreuses images filmées sur le front, les familles américaines subissent la violence de la guerre par la télévision dans leur salon. On appellera cette irruption de la guerre dans les foyers la guerre des salles à manger. Les violences divisent l'opinion américaine et la guerre qui s'enlise voit naître de nombreuses oppositions.
À partir des années 1968, le rôle des médias devient central dans le retournement de l'opinion américaine. Désormais, les journalistes ne sont plus un simple relais du discours officiel, ils montrent ce que le gouvernement tente parfois de cacher. Les violences, les erreurs, les victimes civiles, et que la victoire paraît de plus en plus difficile. Et cela provoque une prise de conscience massive dans la société américaine. L'opinion publique commence à douter sérieusement de l'engagement américain. En quelques années, la confiance s'effondre. Si 61% des Américains soutenaient la guerre en 1965, ils ne sont plus que 39% en 68 et seulement 28% en 72. Le basculement s'explique en grande partie par la puissance des images diffusées dans les médias. L'une des plus choquantes montre l'exécution à bout portant d'un prisonnier en pleine rue. Cette image glace l'opinion publique et témoigne d'une violence extrême et brutale et montre que les atrocités ne sont pas seulement du côté de l'ennemi, les États-Unis. Plus tard, en 1972, une autre photographie bouleverse le monde. Une fillette brûlée au napalm, courant et hurlant au milieu de la rue. Cette photo aura un impact immense. En parallèle, les journalistes influents comme Walter Cronkite déclarent à la télé que la guerre est dans une impasse. Il parle d'une situation sans issue et appelle à une sortie du conflit, lui qui pourtant légitimait la guerre avant 68. En 1971, la publication du Pentagon Papers par le New York Times révèle les mensonges du gouvernement américain. Même le président Johnson reconnaît alors qu'il perd le soutien du peuple. Peu à peu, la société américaine s'éloigne de la guerre, les manifestations se multiplient et la pression participe à la fin du conflit.
La guerre des salles à manger connaît plusieurs phases, du soutien populaire à la remise en question de la guerre. De nombreuses photos, vidéos, interviews et reportages sont publiés à l'international et les reporters de guerre ont une importance majeure dans l'information à la population durant cette guerre. Le développement de l'opposition pacifiste aboutit en 1975 à la fin de la guerre. Cette guerre s'est donc jouée non seulement dans les tranchées, mais aussi dans les médias et cette bataille, les États-Unis l'ont perdue.
Cham AGSP. Se forger un avis critique.
Avoir une réflexion.
Grandir et évoluer avec ses connaissances.
Connaître le monde.
Rester curieux.
L'art du débat.
Avec Cham AGSP.